RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, RFI vous propose une rediffusion de grand reportage aujourd'hui qui nous emmène à Taïwan, cette île-État grande comme la Belgique, située au large de la Chine, avec 23 millions d'habitants. Certains sont issus de vagues d'immigration qui remontent à des centaines, voire des milliers d'années. D'autres ont des parents arrivés bien plus récemment, à la fin des années 1940. Ces Chinois, proches du Kuomintang, le parti au pouvoir en Chine jusqu'en 1949, ils ont fui avec l'arrivée des communistes de Mao. Ils étaient près de 2 millions entre 1948 et 1949 à suivre leur président, Chiang Kai-shek, pour se réfugier à Taïwan. Hébergés dans des logements temporaires, beaucoup y ont finalement passé leur vie. Et ces villages de vétérans sont aujourd'hui bien souvent menacés de destruction. Taïwan, parole de vétérans chinois, un grand reportage signé Clément Robin.
Nous sommes le 8 octobre, sous une pluie battante, nous circulons dans le village de Zhuoying, dans la banlieue de Kaohsiung, grande ville du sud de Taïwan. Des deux côtés du boulevard, les drapeaux de la République de Chine se succèdent, rouge avec dans l'angle en haut à gauche un soleil blanc sur fond bleu. C'est l'emblème du Kuomintang, le parti nationaliste chinois. Au volant, Meng Fanheng, un habitant, nous conduit dans le village.
Le 10 octobre, c'est la fête nationale. Ça fait partie de la culture des militaires. C'est important pour eux.
Elle célèbre quoi en fait la fête nationale ?
Le 10 octobre, c'est la date de la création de la République de Chine. C'est la date anniversaire. Pour autant, les Taïwanais n'ont pas tous la même façon de voir les choses. Par exemple, le Parti démocrate progressiste, le DPP, aurait envie de changer de statut et de ne plus célébrer cette fête nationale. Mais étant donné les relations compliquées avec la Chine communiste, c'est important pour nous de protéger la République de Chine.
La République de Chine, c'est en fait le nom officiel de Taïwan. Ce nom remonte à la prise du pouvoir en Chine par les nationalistes du Kuomintang en 1912. Taïwan est contrôlé par les Japonais depuis 1895 et la fin de la première guerre sino-japonaise. À la fin de la seconde guerre mondiale, l'île revient sous le giron du Kuomintang, mais les communistes se renforcent et la guerre civile reprend de plus belle. Ce sont finalement les forces de Mao qui l'emportent après des années de guerre, faisant plus de 6 millions de victimes, militaires et civiles. Au total, près de 2 millions de Chinois fuient la Chine continentale pour se replier à Taïwan. Parmi eux, Hu Shaocheng, professeur d'anglais dans la marine à la retraite. À la fin des années 40, il fuit les combats et quitte sa ville natale du nord de la Chine pour rejoindre Pékin. Il n'a alors qu'une vingtaine d'années.
Le jour où j'ai quitté ma ville, il neigeait énormément. J'ai passé 7 jours de marche pour atteindre Tianjin, et puis j'ai encore dû faire d'autres voyages pour arriver jusqu'à Pékin.
Arrivé dans la capitale chinoise, il décide de commencer des études pour devenir professeur, mais la guerre se rapproche jusqu'à arriver aux portes de Pékin.
Alors que j'étais toujours étudiant à Pékin, les communistes ont assiégé la ville et les gens ont fui par milliers. Il a fallu aller jusqu'à Tianjin, où j'ai pris le dernier bateau pour Taïwan. Quand le bateau est parti, il y avait énormément de monde. Du coup, les familles étaient séparées. Il y avait des familles dont la mère et les enfants étaient à bord, mais le père était toujours sur le quai. D'autres, où seulement le père avait réussi à monter à bord. Certains n'ont même pas pu emmener leurs valises qui sont restées sur le quai. Comme nous étions beaucoup trop nombreux, le bateau est parti sans avoir laissé tout le monde monter. À ce moment-là, des gens, dont un père de famille, ont essayé de monter sur le bateau, mais ils sont tombés à l'eau. C'était un moment extrêmement difficile et triste. Des familles se sont déchirées faute de place sur les bateaux.
De Deux jours plus tard, Hu Shaocheng arrive à Taïwan, seul, loin de son frère et de sa sœur, qui vivent toujours dans le nord de la Chine aujourd'hui. Pour lui, c'est un nouveau monde, du fait du climat tropical d'abord, radicalement différent de Pékin, mais aussi de la culture et de la langue. Heureusement, grâce à son bagage universitaire, il trouve assez facilement un travail en tant que professeur, d'abord dans une école primaire, puis dans une université de la marine. À 90 ans, il vit toujours dans le même dortoir aujourd'hui, comme d'autres vétérans célibataires. Les larmes aux yeux, il nous raconte son retour en Chine pour la première fois il y a une quinzaine d'années, mais aujourd'hui, il ne se voit plus retourner vivre dans sa région d'origine.
Je suis encore très triste, j'ai été séparé de toute ma famille. Mais maintenant c'est trop tard. Je ne me vois pas retourner vivre en Chine, je suis trop vieux. Je préfère continuer ma vie paisiblement ici.
Nous retrouvons Mun Fangreng, habitant de Zhuoying et fils de vétéran. Il nous propose une visite guidée du village qui compte encore près de 3000 habitants.
C'est le village militaire le plus beau de Taïwan. Il a entre autres été construit par les Japonais avant l'arrivée du Kuomintang. Ça, par exemple, c'est une maison qui avait été construite par les Japonais. Avant, les maisons ressemblaient toutes à ça. Maintenant, ça devient plus ou moins un lieu de visite. Là, c'est un lieu où vivent des militaires de la marine. D'ailleurs, c'était déjà un lieu occupé par la marine au moment où les Japonais occupaient l'île.
Meng Fanheng nous dépose en plein cœur de son village. Autour de nous, les petites rues se succèdent sous une pluie qui ne cesse de tomber. Au loin, un petit homme, 1m60, pas plus, casquette sur la tête, t-shirt rouge et sourire malicieux, nous fait signe d'approcher. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Chen Jianzhen. Je suis capitaine de la marine à la retraite. Venez donc chez moi.
C'est un vieux village.
Oui, c'est ici que je vis, à Zhuoying, un vieux village militaire. J'habite ici depuis 50 ans.
Et vous êtes arrivé comment ici?
En 1949, j'ai suivi Chiang Kai-shek jusqu'ici pour préparer la contre-attaque en Chine continentale et sauver mon peuple. Mais ça n'a pas marché.
Voilà, c'est vraiment plein de petites ruelles. Sa voiture qui est garée juste devant. Il y a quelques immeubles en fait au loin et sinon c'est que des toutes petites maisons assez rares à Taïwan.
Please.
On vous invite à entrer.
Never mind. Don't pack off your shoes.
Ça ne fait rien, gardez vos chaussures. C'est ma femme. Nous sommes mariés depuis 50 ans.
50 years. Just sit down, please.
Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Sit down, please.
Ah, c'est. On
s'assoit. My treasure.
C'est mon petit trésor.
Treasure box.
Là, je viens d'ouvrir une petite valise.
You guess.
Là, devinez qui est sur cette photo.
Who is he?
C'est vous?
Yes, that's right.
Oui, c'est ça, le capitaine.
Captain.
Là, on voit un homme avec une casquette de capitaine de la marine et des bateaux militaires derrière.
Regardez, je vais vous montrer quelque chose.
Ah, le t-shirt de la...
De l'Académie navale chinoise.
And Chinese.
Et qu'est-ce que vous faisiez dans l'Académie navale?
J'ai étudié là-bas pendant 4 ans. Avant, je vivais dans une caserne militaire. Ma famille, c'était les officiers. Et puis, j'ai rencontré ma femme. Nous nous sommes mariés le 20 mai 1956 et nous avons déménagé dans ce quartier où nous vivons aujourd'hui avec les petites maisons. Aujourd'hui, j'ai une relation très forte avec ce lieu. J'ai vraiment très envie de rester ici, mais je ne suis pas sûr que ce sera possible.
C'est. À 82 ans aujourd'hui, Tsan Jianzhen est menacé d'expropriation, comme de nombreux habitants de villages de vétérans. Ce projet immobilier remonte à 1997. Les habitants de Zhuoying reçoivent alors une lettre de notification leur demandant de quitter les lieux. En réaction, des dizaines d'habitants du village, bien souvent des enfants de vétérans, ont créé leur association de développement communautaire pour lutter contre ce projet immobilier. Meng Fanheng est justement le président de cette association. Nous le retrouvons pour le déjeuner dans un restaurant de cuisine chinoise, une immense salle avec de grandes tables rondes.
Avant, dans tout le pays, il y avait 888 villages militaires. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une dizaine. Dans certains villages, tout le monde est décédé. Alors les autorités se disent, pourquoi les garder? C'est dommage parce que ça fait partie de l'identité de Taïwan.
À Zhuoying, les habitants ne se laissent pas faire et enchaînent les recours en justice depuis une dizaine d'années. Le procès est aujourd'hui toujours en cours pour décider du sort du village. Mais ce que le président de l'association reproche au Kuomintang, c'est surtout d'avoir trahi les villages de vétérans en leur promettant de reconquérir la Chine continentale. Et ce n'est qu'en arrivant à l'école militaire juste après la mort de Chiang Kai-shek en 1975 que Meng Fanheng découvre le mensonge. Jamais lui et sa famille ne pourront rentrer en Chine.
Le Kuomintang a toujours oppressé les habitants des villages de vétérans. Pendant des années, il y a eu un lavage de cerveau. On a été éduqués par le Kuomintang dans l'idée qu'il était le seul parti et qu'on allait récupérer la Chine. On vivait dans notre village, coupé du reste de la société taïwanaise. C'était un moyen de nous garder dans le même état d'esprit. Du coup, à l'extérieur, quand on croisait des gens qui critiquaient Chiang Kai-shek, on n'hésitait pas à en venir aux mains pour défendre les idées qu'on nous avait inculquées.
Après les décennies de règne presque sans partage du Kuomintang à Taïwan, le vent a tourné en janvier dernier avec l'élection de Tsai Ing-wen à la tête du pays. C'est surtout la première fois que le DPP, principal parti d'opposition, remporte la majorité au Parlement, ce qui redonne un peu d'espoir à certains habitants du village de vétérans qui espèrent que leurs revendications seront prises en compte par les autorités. D'autant plus que les habitants de Zhuoying ne manquent pas d'idées. Ils aimeraient par exemple développer le tourisme local pour rendre leur village plus attractif. Du moins, c'est ce que souhaite le président de l'association de développement communautaire.
Nous avons imaginé un projet touristique que nous avons transmis au ministère de la Culture. Nous proposons de prendre en charge des visites afin de redynamiser notre village.
Vous pensez que le seul moyen de préserver ces villages-là, c'est de les rendre touristiques ?
Il y a aussi la culture. Nous voulons faire en sorte de valoriser la culture locale pour la préserver. Pour ça, il faut faire en sorte que les écrivains et les réalisateurs viennent ici. Il faut qu'ils écrivent des romans, qu'ils tournent des films dans ces villages de vétérans.
Nous nous rendons chez une autre grande figure de Zhuoying. Chang Shui-guang, retraitée, est une femme de vétéran. À son arrivée dans le village, il y a une soixantaine d'années, les conditions d'accueil étaient encore très limitées. Les maisons construites avec les moyens du bord sur de petits espaces. Mais avec le temps, les habitants ont agrandi leur logement. Chang a même pu acheter une maison plus grande. Portail rouge et petit jardin juste devant. C'est un véritable havre de paix qu'elle compte bien sauver des engins de chantier.
C'est l'armée qui veut détruire ce village parce qu'il lui appartient. Mais nous, nous sommes nombreux à vivre ici, certains depuis plus de 50 ans. Alors on ne comprend pas pourquoi on devrait partir. Nous, on voudrait rester au moins pouvoir finir notre vie ici. Nous avons beaucoup de souvenirs dans ce village avec nos parents, nos maris, nos femmes, nos enfants. Alors pour nous, c'est insupportable de devoir partir. On ne comprend pas pourquoi nous devrions laisser des maisons qui sont les nôtres. Et puis nous sommes âgés, alors où pourrions-nous aller ?
Ça fait longtemps que vous habitez ici ?
Oh oui, ça fait bientôt 60 ans.
Et qu'est-ce qui vous a amené ici en fait ?
J'avais 4 ans quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. J'ai alors passé plusieurs années à fuir et à déménager sans arrêt avec ma famille. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, les transports étaient très limités, donc il fallait sans arrêt marcher, marcher et marcher. Après la guerre, je suis rentrée avec ma famille dans ma région d'origine, près de Nankin. On est resté là-bas 1 ou 2 ans. Et puis la guerre civile s'est intensifiée entre les communistes et les nationalistes du Kuomintang. Alors, nous sommes partis avec mon mari qui était militaire dans la marine et je l'ai suivi jusqu'ici, à Taïwan.
C'était la première fois que vous partiez aussi loin de chez vous ?
Oui, c'est l'endroit le plus loin où j'étais jamais allée. Et c'est surtout la première fois que j'ai vu l'océan de toute ma vie.
Et quand vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous avez ressenti
ici ? Quand nous sommes arrivés à Taïwan, c'était très beau. Il y avait beaucoup de verdure, beaucoup de fleurs. L'environnement avait l'air très agréable. Mais pour moi, ça ne change rien au fait que quitter là d'où on vient, c'est quand même une tragédie. Peu importe là où on arrive. Et ce sentiment, les jeunes générations comme ma fille ne peuvent pas le comprendre. Elles ne peuvent pas comprendre ce que c'est que de perdre le lieu d'où on vient.
Est-ce que vous saviez au moment où vous êtes arrivé à Taïwan que vous reviendriez probablement jamais en Chine ?
Quand on est arrivé à Taïwan, on ne savait pas qu'on allait y rester pendant 30 ans, 40 ans. Chiang Kai-shek disait « on va récupérer la Chine ». Mais finalement, nous avons dû nous rendre à l'évidence et puis il fallait continuer à vivre. Alors nous nous sommes mariés, nous avons fondé une famille, racheté cette maison. En fait, c'est une maison temporaire qui est finalement devenue la maison d'une vie. Et après 60 ans passés ici, on peut dire que c'est notre maison.
Taïwan, parole de vétérans chinois, un grand reportage de Clément Robin, réalisation Eva Moshinsky.
Autour de la question.